Bonsoir, merci à vous d'être là. Alors pour commencer, mes remerciements à Pup en vol et à tous ceux qui ont rendu possible cette rencontre. Donc, mon intervention va porter sur l'émergence de la poésie algérienne de langue française, ainsi que ses influences et ses inspirations et ses thématiques. Alors, c'est aussi cette intervention, c'est le résultat d'un travail de recherche universitaire que j'ai pu réaliser ici à l'Université de Toulouse et qui a abouti à cette anthologie de la poésie algérienne. Ayant pour titre Quand la nuit se brise. En fait, c'est un vers d'un poète algérien, Mohamed Dib. C'est un écrivain qui est connu hein, et qui fait partie de cette génération qui a émergé à partir des années 50. Alors, avant d'arriver à la poésie algérienne d'expression française ou de graphie française, ou de langue française, peut-être faut-il retour source de la poésie algérienne dans son ensemble. Alors, sachez que, et vous devez peut-être vous en douter, que depuis les temps reculés dans le Maghreb, l'Afrique du Nord, la poésie a occupé une place centrale dans la société. Que ce soit en pays berbérophone ou dans les régions où prédomine la langue arabe, les conteurs, les gouelines, les diseurs, on peut traduire ainsi ce mot, et les zaïd, les médehs, ont perpétué les antiques traditions et les hauts faits des tribus. Leurs œuvres allient la louange et la satire. À ce propos, le poète et écrivain Jean Amrouche El Mouhouf indique que le poète est celui qui a le don d'Assefrou, c'est-à-dire de rendre clair, intelligible ce qui ne l'est pas. Ces clairvoyants et ces clairchantants ne sont ni des mages ni des prophètes. Ils vont au champ comme les autres ou vendent leur pacotille dans les villes. Ils ne font pas métier de chanter. Ils restent dans le corps du peuple, pourtant, et ils plongent dans son âme. De là, un autre mérite. Les œuvres achevées, comme des pierres taillées, restent prises dans la vie la plus quotidienne. On peut dire qu'elles ne font rien d'autre que l'exprimer, la commenter, la rendre claire. C'est ce que nous disait Jean Amrouche à propos de cette poésie du terroir. Les thèmes de cette poésie populaire sont extrêmement variés: chants satiriques, poèmes d'amour, faits divers, vie de tous les jours, religieux. Ainsi, on peut distinguer plusieurs musiques, puisque cette poésie est accompagnée généralement par de la musique. Il y a la musique des montagnards, volontiers âpres, rocailleuses, quand elles dévalent les hauteurs abruptes de l'Aurès, beaucoup plus tendres, plus humaines, nous dit-on, lorsqu'elles coulent des flancs herbeux du Djurdjura. La musique bédouine, qui n'est qu'un simple et monotone psalmodie des vers, mais propre surtout aux récits héroïques. La musique arabe, dite classique ou musique arabo-andalouse, chère aux citadins des grandes villes. Ces œuvres poétiques s'insèrent dans un panorama riche en traditions orales, en contes, et en légendes, en dictons et proverbes qui concentrent l'âme d'un peuple confronté à une succession historique d'invasions et de conquêtes et qui développèrent, selon Jacques Berck, la faculté du compte à soi, qui se traduit par une certaine intériorité. La confrontation avec l'autre, au travers des heures de l'histoire, des reliefs archéologiques, nous dit-il, et sociaux, mais une trace mentale indélébile. Dans ces conditions, le poète ne pourra pas se départir d'un rôle social et civique. Il est conduit à assumer le rôle de héros de la résistance. La conquête française de 1830, qui a ébranlé la société algérienne, polarisera l'inspiration poétique. Dans un premier temps, il s'agira d'élégies nostalgiques sur le paradis perdu, pour ensuite tendre vers le relèvement moral. Elle fut essentiellement le fait des poètes populaires. Ainsi, Jean Desjeux, dans son essai sur la poésie algérienne de 1830 à nos jours, a écrit « Les lettrés et les notables gardèrent le silence. D'aucuns avancent qu'ils ne voulaient pas faire enregistrer par la langue classique les affronts subis et les humiliations. Mais l'aurait-il voulu qu'en réalité le petit peuple de la rue et des campagnes aurait été incapable de comprendre cette langue arabe dans la très grande majorité des cas. » Il s'agit de la langue arabe dite classique, non pas l'arabe populaire. La parade est donc venue des poètes populaires qui, dans les dialectes arabes et berbères, se firent les porte-paroles du petit peuple. Leur source d'inspiration provient du fond ancestral arabo-musulman. Le but était de raviver la fierté et l'honneur gravement atteints par la conquête de 1830. Aux soirées et aux fêtes familiales, durant le ramadan, récite des pièces épiques, les Ghazawats, à la gloire de la geste arabo-musulmane. Dans ses compositions, la civilisation occidentale était personnifiée par le roul, l'ocre. Dans les poésies élégiaques, le poète exhale l'humiliation de la prise d'Alger, comme dans le poème intitulé « L'entrée des Français à Alger » par le Cheikh Abd al-Qadr. « Repentez-vous, demandez pardon au maître, voici la fin des temps, elle nous atteint, elle apporte les épreuves et tous les malheurs, dorénavant plus de tranquillité. » C'est un poème qui a été recueilli et publié dans la revue africaine vers 1930. 1930, c'est aussi la date de la commémoration du centenaire de la conquête d'Alger. En fait, ces poésies constituent un long chapelet de lamentations et d'exhortations au fur et à mesure de la progression de la colonisation à l'intérieur du pays et participe à susciter les foyers de rébellion et de sédition sporadique durant le XIXe siècle et le début du XXe siècle. Nostalgie de l'ancien ordre, lamentation sur les gloires passées, sur la liberté perdue face à l'intrusion par la violence d'un nouvel ordre qui impose ses innovations, les larmes du poète se voudront une forme de résistance. En Kabylie, si Mohand ou Mohand voudrait avoir des larmes de granit à cause de ce siècle sans pudeur, comme il le dit dans l'un de ses poèmes. Au début du XXe, la Première Guerre mondiale voit la mobilisation des autochtones. Les Algériens vont, comme les autres Africains, vont être mobilisés et enrôlés dans les troupes françaises. Le nombre est assez important et Donc, ces Africains, dont les Algériens, vont participer à la défense de la France. Alors, cette situation ne sera pas vécue de la même manière que des deux côtés de la Méditerranée. Alors, du côté au Maghreb, en Afrique du Nord, on va assister à l'apparition de poèmes satiriques ou des chansons au sens ambigu, où l'Europe est narguée et où s'étale la misère auquel la population était confrontée. Alors on entend à cette époque une pièce foncièrement politique comme Contre la guerre, qui a été d'ailleurs repris plus tard en chanson. Monseigneur Dieu, qu'avons-nous fait, mon fils et moi? Je l'ai élevé moi-même, un État Roumi me l'a pris. De façon générale, les critiques s'accordent à dater l'acte de naissance de la littérature algérienne à partir de 1945, année hautement significative durant la colonisation. En ce sens, elle consacre à la fois une rupture radicale avec l'école algérianiste, entre parenthèses, l'école algérianiste, c'était une école qui était surtout tournée vers la vulgarisation et le développement de la culture française. Alors, elle a eu également à s'émanciper, cette littérature algérienne d'expression française, de l'école d'Alger, qui fut, l'école d'Alger fut, disons, un moment où, dans la littérature d'expression française, on s'est penché plus ou moins sur la condition difficile, tragique dans laquelle la population française se trouvait. Alors, parmi les figures qui ont animé cette école dite d'Alger, hein, c'est pas à proprement parler, généralement c'est des étiquettes que la critique utilise pour essayer d'organiser et de séquencer les différentes périodes du développement de cette littérature. Alors, parmi ces écrivains, il y a Emmanuel Robles, Gabriel Odizio et momentanément Albert Camus qui n'est plus à présenter, qui est né en Algérie. Qui a étudié en Algérie, qui a publié ses premiers livres en Algérie et qui ensuite avait rejoint le continent, comme on disait à l'époque. Donc, l'école algérianiste se réclamait de Louis Bertrand et selon les termes de son manifeste de 1920, elle prétendait à une autonomie esthétique par rapport à la métropole. Elle a existé durant une quinzaine d'années autour de Robert Rondeau, ayant pour credo la latinité. Jean-Claude de Xurèbe, dans l'école d'Alger, Mythe ou réalité, écrit: cette démarche non dénuée d'arrière-pensée politique visait, sans l'affirmer ouvertement, à légitimer l'occupation française de l'Algérie. Il s'agissait, faisant allègrement l'impasse sur un millénaire de culture arabo-musulmane, de rattacher cette présence française dans une continuité historique à l'Afrique romaine, puis chrétienne du Bas-Empire. Cette école, même sur le plan littéraire, n'a pas laissé de souvenirs impérissables. Les écrivains de la génération suivante, prendront leur distance, d'autant plus que dans les années 30, je cite, la référence à la romanité apparaissait d'autant plus suspecte qu'elle semblait faire écho aux occasions fracassantes du fascisme italien, nous dit Jean-Claude Gureb, qui est un écrivain, poète, né en Algérie. Et ils chercheront d'ailleurs leur inspiration ailleurs. La constitution, cette fois, de l'école d'Alger s'appuiera sur Gabriel Odizio. Ses essais sur la Méditerranée ouvriront la voie à un ressourcement dans l'héritage grec et à un attachement plus affirmé à l'universalité. Jean El-Mouhouv Amrouch et sa sœur Marguerite Taous Amrouch, par exemple, s'y joindront, sans oublier et Jean Pellegri. Elle fut sans conteste le lieu d'amitié et d'affinité commune de toutes origines autour de la revue Forge, avec la participation de Mohamed Dib, Kateb Yassine, Melek Ouari, Ahmed Sifrioui. La littérature algérienne sera désormais le fait d'écrivains autochtones et plus largement, c'est important, de tout ce qui s'identifie à l'idée de la nation algérienne. Ainsi, Jean Sénac pouvait proclamer « est écrivain algérien, tout écrivain, ayant définitivement opté pour la nation algérienne ». Dès l'abord, il s'est agi d'une littérature qui se voulait profondément imbriquée dans un combat historique. Son inspiration et ses modes d'expression procéderont de ce choix. L'écrivain est, par conséquent, le porte-parole d'une nouvelle réalité en acte, pour des raisons d'ordre historique et civilisationnel. Comme on l'a dit, la poésie va occuper dans cette littérature une place souveraine. À de rares exceptions, Mohamed Dib, Mouloud Feraoun, Mouloud Mamri, la production littéraire algérienne d'expression française dans les années 50 et au début des années 60 est essentiellement composée par la poésie. Une fois l'indépendance acquise, cette littérature de l'engagement semblait promise à l'effacement au profit de celle qui s'exprimerait en langue arabe posée comme langue nationale. Le débat sur la langue constituera d'ailleurs une constante de la polémique culturelle en Algérie sous des avatars parfois nettement politiques et idéologiques. Dans le portrait du colonisé, Albert Memmi, annoncé en 1957 que l'essentiel de la littérature maghrébine serait en langue arabe, tandis que celle de la langue française serait vouée au dépérissement. Cette célèbre prédiction ne s'est pas accomplie en langue arabe avec la rapidité annoncée. Et la littérature maghrébine francophone d'aujourd'hui a connu une vitalité insoupçonnée. D'ailleurs, Albert Memmi a lui-même reconnu plus tard être allé trop vite en besogne. Le tarissement annoncé de la poésie algérienne d'expression française contre toute attente ne s'est pas produit. De la poésie de la résistance des années 50 à celle du mal de vivre et de la volonté d'être des années 70, l'expression passe du témoignage, de l'exaltation, de la revendication nationale au regard souvent désabusé, porté par une nouvelle génération sur les lendemains qui devait chanter. Dans son ensemble, la poésie algérienne est fortement donc inscrite dans l'histoire. Et à l'heure d'un processus dit d'arabisation, à savoir plus exactement la généralisation de la langue arabe, instituée comme nationale et négligeant la culture berbère, la survivance de la littérature algérienne de langue française dans sa globalité s'est présentée comme l'une des voies d'accès à la modernité et à l'universel. Pour reprendre la métaphore du poète indien Rabindranath Tagore, nous dirons qu'elle fut une sorte de morsure vivifiante de l'Occident. Donc, à l'opposé des prédictions, des injonctions, elle est loin d'être entrée dans ce stade de dépérissement auquel l'idéologie officielle entendait la condamner. La vitalité créatrice dans la littérature algérienne de langue française a fait preuve au long de ces dernières décennies qu'elle n'avait pas épuisé son destin. Mais née d'un exil, l'exil de la langue, elle semble retourner à un second exil depuis que l'Algérie avait été à nouveau saisie par la violence et la destruction durant les années 90. Cycle tragique inauguré par l'assassinat de Jean Sénac en 1973 et qui va se poursuivre encore avec l'assassinat du poète et romancier Tahar Jaout, du poète Lhedi Flissi, du sociologue et poète Youssef Sebti, qui ont été assassinés en 1993 et 1994. Et ainsi, de nombreux poètes ont dû prendre le chemin de l'exil. Et c'est donc à l'étranger que la partie la plus visible et la plus créative de cette littérature algérienne va se produire durant une longue période, du moins jusqu'à la fin des années 90, début des années 2000. Alors revenons, si vous le voulez bien, à cette poésie, à partir de son contenu. Jean El-Mouhouf Amrouche occupe une place singulière dans la poésie algérienne d'expression française. Il fut le premier poète en langue française que l'Algérie a connu, l'Algérie non européenne. Son œuvre est contenue dans deux recueils, Cendres, 1934, et Étoiles secrètes en 1937. Donc, c'est une sorte de précurseur, c'est la génération des années 40. Alors, lui-même est marqué par une singularité qui fait que, étant de souche berbère, il est aussi un produit de la culture française. Il est même chrétien. Donc, il va vivre un certain déchirement qu'il apparente partiellement et très relativement avec la situation d'Albert Camus, qui est né en Algérie et qui va être aussi interpellé à l'époque, dans les années 50, les événements d'Algérie, qui plus tard vont finir par être reconnus comme étant une véritable guerre, une sale guerre, comme diront certains journalistes français. Alors, Jean El-Mouhouf à Amrouche se présentait volontiers comme un écrivain français et il se définit lui-même ainsi, un Kabyle de père et de mère, profondément attaché à mon pays natal, à ses mœurs, à la langue, amoureux nostalgique de la sagesse et des vertus humaines que nous a transmise sa littérature orale, il se trouve qu'un hasard de l'histoire m'a fait élever dans la religion catholique et m'a donné la langue française comme langue maternelle. Son attachement à sa patrie, c'est donc dans le passé qu'il va l'interroger en faisant revivre une des figures fondatrices, Jugurtha. Jugurtha était un chef berbère qui dirigea la résistance à la conquête romaine. Il est arrivé même aux portes de Rome, mais il n'a pas osé ce que César avait osé, il n'a pas franchi le Rubicon et il va être trahi par son beau-père, je crois qu'il s'appelait Bocchus, qui va le livrer aux Romains, qui d'ailleurs paraît-il à Rome il y a toujours la cellule où il a été mis au cachot et ensuite purement et simplement étranglé. Donc Jugurtha, nous dit Jean Amrouche, prend toujours le visage d'autrui, mimant à la perfection son visage et ses gestes, mais tout à coup les marques les mieux ajustées tombent et nous voici affrontés au masque premier, le visage de Jugurtha, inquiet, aigu, désemparé. En faisant revivre l'épopée d'un résistant à la domination romaine, il s'emploie, Jean Amrouche, à déchiffrer le message de ce qu'il va nommer l'éternel Jugurtha dans l'un des traits de caractère et la passion pour l'indépendance qui s'allie à un très vif sentiment de la dignité personnelle. L'œuvre de Jean Amrouche s'articule aussi autour d'une double quête spirituelle et identitaire dont la finalité est le langage primordial. Entre deux chemins, l'un vers Dieu, l'autre vers l'histoire, le poète avoue son impuissance. Je cite « Je n'ai rien dit qui fût à moi, je n'ai rien dit qui fût à moi, ah, dites-moi l'origine des paroles qui chantent en moi. » Pour déchiffrer cette parole étrangère dont il n'est que l'instrument, il pressent qu'au-delà du verbe humain, un langage primordial. Dans sa double quête des racines et du divin, Jean Amrouche ne reste pas pour autant à l'écart du monde. Son ébauche d'un champ de guerre en témoigne clairement. Je cite « À l'homme le plus pauvre, à celui qui va demi-nu sous le soleil, dans le vent, la pluie ou la neige, à celui qui depuis sa naissance n'a jamais eu le ventre plein, on ne peut cependant ôter ni son nom, ni la chanson de sa langue natale. Aux Algériens, on a tout pris, la patrie avec le nom, le langage avec les divines sentences de sagesse qui règlent la marche de l'homme. » Pour Jean Amrouche, il s'agit désormais d'habiter un nom pour ne plus errer en exil dans le présent sans mémoire et sans avenir. De la méditation individuelle, Il s'élève donc vers une parole commune emprise sur un drame immédiat sans pour autant renoncer à sa quête de l'universel. Aimé Césaire dira à son propos que sa grandeur pathétique avait été, je cite, de n'avoir sacrifié ni l'amant, ni l'aval, ni son pays, ni l'homme universel, ni les mânes, ni Prométhée. Produit d'une double culture, il est aussi le lieu d'une dramatique dualité. Selon Armand Guibert, écrivain, poète, pour faire face à ce déchirement, il s'est voulu être un pont de communication entre les deux communautés en conflit, pour preuve son engagement inlassable en faveur de négociations pour la paix en Algérie. Tout en affirmant « je me suis toujours senti algérien », Jean Amrouche avouait « la France est l'esprit de mon âme, l'Algérie est l'âme de mon esprit ». Ce fut pour lui une manière de crucifixion. Jean Amrouche est mort le 6 avril 1962 sans connaître l'Algérie indépendante. Il est mort à quelques jours de l'indépendance. Il aura été le précurseur d'une poésie nationale qui se constituera pour l'essentiel dans les années 50 dans le sillage du combat pour l'indépendance et qui reprendra à son compte le mot d'ordre du poète français Éluard: la poésie doit avoir pour but la vérité pratique. Les poètes qui la porteront seront qualifiés de génération 54. 54, c'est l'année de la Toussaint Rouge du 1er novembre 1954. Jean Sénac, qui était d'origine européenne, va très tôt prendre pour l'Algérie colonisée. Cet engagement lui permet, au plan personnel, dit-il, d'échapper au singulier, de me sentir avec ceux que j'aime, non plus un rêveur déraciné, mais un homme lucide. On sait qu'il ne se limitera pas à une simple profession de foi, mais qu'il s'investira totalement dans la révolution algérienne. Relevons cependant que Sénac s'est interrogé sur l'avenir d'une intégration des différentes composantes de la nation algérienne en devenir. On sait qu'au lendemain de l'indépendance, Jean Sénac aura à souffrir parfois d'un ostracisme, mais qui n'entamera jamais sa foi dans son appartenance à la nation algérienne. Parmi les pionniers de cette poésie de langue française, il faut citer Ismaïl Eid Jafar, l'auteur de la complainte des mendiants arabes de la Kasbah et de la petite Yasmina tuée par son père. C'est un long poème écrit en 1951, inspiré par un fait divers réel. Il est important de souligner que le poème de Eid Jafar est écrit des années avant 1954 et qu'ainsi il a servi à ouvrir la voie à toute une partie de la poésie algérienne. Les auteurs du diwan algérien relèvent au passage des réminiscences du prévers de parole chez Eid Jafar. Cette influence est à restituer dans un contexte plus large quand Alger accueillait des écrivains français fuyant la métropole, entre guillemets, occupée, et qui donnèrent vie à des revues littéraires comme Fontaine de Max-Paul Fouché, L'Arche de Jean Amrouche, mais dès 1946, paraissait sous l'impulsion d'Emmanuel Robles la revue Forge, dans laquelle on va retrouver des textes d'auteurs algériens, notamment Mohamed Dib, Kateb Yassine, Ahmed Smaili, et donc à cette époque, Kateb Yassine n'avait que 16 ans et il faisait paraître son premier recueil, Soliloque, qui avait été édité en Algérie. Et au début des années 50, on va assister également à l'émergence du roman algérien de langue française avec Le Fils du Pauvre de Mouloud Feraoun, La Colline oubliée de Mouloud Mamri et La Grande Maison de Mohamed Dib. Le roman était un genre peu pratiqué par les autochtones jusqu'à là. Et donc, on assiste à l'émergence d'une nouvelle génération qui va s'emparer aussi du roman. L'émergence de cette nouvelle littérature s'accompagne parfois de controverses acerbes qui se focalisent, par exemple, autour de La Colline oubliée de Mouloud Mamri. Dans l'année 1952-53, c'est ainsi que l'historien Mohamed Sherif Salhi définissait ainsi l'utilité d'une œuvre algérienne. Une œuvre signée d'un Algérien ne peut nous intéresser que d'un seul point de vue. Quelle cause sert-elle? Quelle est sa position dans la lutte qui oppose le mouvement national au colonialisme? Si l'on jette un regard objectif sur la production poétique de cette époque, on peut constater que de nombreux écrits sont le fruit des circonstances et que nombre de vocations ne se sont déplacées plus tard par une œuvre conséquente. Ainsi, à l'image de la poésie de la résistance française, on y retrouve des voix qui s'expriment sous le coup d'une vive émotion, d'un moment dramatique, qui se veulent un témoignage et une réaction. Il n'y a pas prétention à livrer une œuvre vraiment littéraire. Les conditions de la guerre ne permettent d'ailleurs pas l'élaboration d'œuvres plus ambitieuses. La première tentative de rassembler les écrits disparates des poètes algériens, nous la devons à Jean Sénac, sous le titre « Le soleil sous les armes », qui s'ouvre par la phrase « Poésie et résistance apparaissent comme les tranchants d'une même lame où l'homme inlassablement affûte sa dignité. » Alors, selon Jean Desjeux, un critique qui s'est beaucoup investi dans l'étude de la littérature algérienne et qui a vécu au Maghreb, cette poésie s'articule autour de 5 thèmes: les ancêtres, la patrie, la liberté, le peuple bon, l'homme nouveau. Voilà donc l'essentiel des directions que cette poésie a empruntées. Alors venons-en à la problématique de la langue française. La langue française est-elle un exil ou un butin de guerre? C'est l'interrogation qu'on peut poser. Une littérature écrite dans une langue étrangère peut-elle vraiment être nationale? La langue française peut-elle exprimer des réalités algériennes? Ces questions ont été et demeurent jusqu'à une certaine date disons même jusqu'à aujourd'hui, au centre des débats qui portent sur le problème de la langue. Interdite d'enseignement, la langue arabe a continué à avoir une existence marginale par rapport à la réalité des pratiques officielles. La génération des années 50 a surtout fréquenté l'école française où elle s'est nourrie des valeurs de la Révolution française, qu'elle retournera d'ailleurs dans ses revendications nationales à la France. Dans son ensemble, on peut dire que la littérature maghrébine d'expression française se présente, selon le poète marocain Abdelatif Lehbi, comme une espèce d'immense lettre ouverte à l'Occident des cahiers maghrébins de doléances, en quelque sorte. C'est un peu d'actualité, je suppose, ces cahiers de doléances, ça doit vous dire quelque chose. Interpellation, dénonciation, revendication constituent les ressorts existentiel de cette littérature. Elle n'en est pas moins un appel au dialogue rendu propice dans la mesure où il se réalise dans la langue de l'interlocuteur. Dans le maniement de la langue française, les écrivains algériens apposent la marque de leur originalité culturelle. En retour, la langue française leur permet d'explorer des espaces ignorés ou bridés par la culture d'origine. On va assister à cette problématique, surtout après les indépendances, disons dans les années 50, dans le courant national algérien, il y avait peut-être des réticences, mais il y avait aussi la reconnaissance de l'efficacité du recours à la langue française. Alors, on peut explorer grâce à la langue française des espaces ignorés ou bridés, pour ne pas dire interdit par la culture d'origine. Cette dernière dimension administrera sa pertinence après l'indépendance, quand nombre d'idéologues considéreront que la page de la langue française devait être définitivement tournée. Or, dans sa préface à Ombre gardienne de Mohamed Dib, un recueil de poésie, Louis Aragon écrit « Cet homme d'un pays qui n'a rien à voir avec les arbres de ma fenêtre, les fleuves de mes quais, les pierres de nos cathédrales, parle avec les mots de Villon et de Peggy. » C'est un extrait de la préface que Louis Aragon a rédigé pour Ombre gardienne, un recueil du poète et romancier Mohamed Dib. Par là même se pose le problème de la réception de cette poésie par le public algérien. C'est donc à une aventure ambiguë, pour reprendre le titre du récit de l'écrivain sénégalais Amidou Kane, que l'écrivain algérien est voué. Keteb Yassine a lancé la formule que la langue française était le butin de guerre des Algériens et qu'à ce titre, il n'y avait aucun complexe à l'employer. Une formule qui a l'avantage de transcender la querelle politique, mais qui ne résout pourtant pas la question du lecteur algérien. Keteb Yassine, d'ailleurs, dans les années 70, y apportera une réponse en s'orientant vers la promotion d'un théâtre en arabe populaire. À l'indépendance, en 1962, les écrivains algériens, pour la plupart en exil, regagnent le pays. Une nouvelle phase s'ouvre dans l'histoire de la littérature algérienne, où la poésie occupera encore une place prépondérante. En octobre 1963, naît l'Union des écrivains algériens, dont la présidence est assurée par Mouloud Mamri et le secrétariat par Jean Sénac. C'est le temps d'un enthousiasme culturel sans précédent, où les écrivains veulent faire connaître leur œuvre à leur public naturel. Jean Sénac s'investit dans une action multiforme visant à rendre accessible au plus grand nombre la poésie. Ainsi, il multiplie les émissions radiophoniques, Le poète dans la cité, Poésie sur tous les fronts, les récitals à travers tout le pays, les revues et journaux publient régulièrement des poèmes. C'est l'année où paraît l'anthologie Espoir et Paroles de Bara aux éditions Seghers, qui permet de donner une vue d'ensemble de la poésie algérienne d'expression française. Kadib Yassine avait mis en garde avant même l'indépendance en 1958 sur l'impasse qui menaçait la littérature à abdiquer ses droits à la critique face à l'instance politique. Je cite: le vrai poète, même dans un courant progressiste, doit manifester ses désaccords. S'il ne s'exprime pas pleinement, il étouffe. Telle est sa fonction. Il fait sa révolution à l'intérieur de la révolution politique. Il est au sein de la perturbation l'éternel perturbateur. Deux courants alors vont traverser la littérature algérienne. Une littérature proclamée engagée, révolutionnaire, qui dominera officiellement et à laquelle l'édition est ouverte. L'autre, critique, subversive dans sa thématique comme dans son écriture, qui est contrainte à évoluer en marge ou dans une quasi-clandestinité. Les grands noms de la littérature qui se sont imposés durant la guerre de libération sont soit condamnés au silence, comme Melk Haddad, un silence voulu par lui-même. Melk Haddad, qui avait écrit plusieurs romans aux éditions Julliard dans les années 50 et publié plusieurs recueils, face à la problématique de la langue, va décider d'arrêter d'écrire, purement et simplement parce que, ne maîtrisant que la langue française, il trouvait qu'il lui était impossible de continuer. Et il incarne un suicide littéraire. Alors, les premières années de l'indépendance restent relativement propices à l'existence d'une littérature en langue française, essentiellement axée sur le témoignage historique, la narration historique et l'exaltation patriotique, qui traduit en fait une certaine fuite devant le vécu et les contradictions du présent. De cette littérature, l'essayiste sociologue Mostafa Lachraf dira qu'elle ne décrit pas la réalité du combat anticolonialiste que dans ses aspects anecdotiques et pseudo-épiques les plus propres à cadrer avec une psychose idéaliste de la guerre de libération. Et c'est quelqu'un qui était un personnage officiel, même s'il était en marge des responsabilités les plus élevées, il s'exprimera d'une façon qui lui vaudra lui aussi des cabales. Littérature du témoignage, c'est aussi une littérature de la répétition, de la redondance et de la célébration. Les journaux s'emplissent de poèmes déclamatoires sur les faits d'armes du passé, comme pour exorciser les contradictions entre le discours politique et les réalités quotidiennes. De ce décalage, Jean Sénac, tout en proclamant son attachement à l'utopie sociale, prend la mesure et dénonce les trahisons en route. Il dira « Il passe sur ce pays un froid de nord extrême », un froid politique, ce n'est pas comme le froid d'aujourd'hui. Novateur se tourne alors de plus en plus vers l'étranger pour éditer leurs œuvres. C'est ainsi que, coup sur coup, deux œuvres publiées en France opèrent une rupture fracassante avec la littérature consacrée officiellement. Il s'agit du Musain de Mourad Bourboun, paru en 1968 aux éditions Christian Bourgois, et la Répudiation de Rachid Boujadra aux éditions de Noël en 1969. Alors Ahmed Azgag, dans son recueil Chacun son métier, l'un des rares recueils publiés dans la collection Poésie sur tous les fronts, fondée par Jean Sénac, formule dans un cri l'impatience de la génération de l'indépendance. Arrêtez de célébrer les massacres, arrêtez de célébrer des noms, arrêtez de célébrer les fantômes, arrêtez de célébrer les dates. Autour de Jean Sénac, jusqu'à sa mort en 1973, se constitue ce que l'on a nommé avec une pointe d'ironie le Cénacle, un groupe en fait de jeunes poètes mus par un même attachement à l'écriture et évoluant dans une sphère commune d'interrogation et d'inquiétude. Ces poètes auraient pu demeurer dans un total anonymat si Jean Sénac ne les avait mis sous les projecteurs en publiant en 1971 en France son anthologie de la nouvelle poésie algérienne qui se présente à la fois comme essai et anthologie. Mais moins que la langue, c'est la thématique de cette poésie qui la rendait suspecte et scandaleuse aux yeux, je cite, de la morale révolutionnaire. Suspecte parce que se voulant se situer au-dessus de la mêlée, et la mêlée, enfin les luttes de pouvoir surtout, et scandaleuse parce qu'elle ose évoquer les tabous religieux et sexuels. Première cible de cette révolte, les traditions sclérosées qui oppriment en particulier la femme, jouet et objet de marchandage entre les familles. Deuxième tabou à voler en éclat, l'usage pétrifié des pratiques religieuses symbolisées par une phrase de Ketib Yassine. Il dira des mosquées, ce sont des fusils qui ne perceront jamais le ciel. Ça a fait l'objet d'une grande polémique. Donc, en fait, si on se penche avec plus d'attention sur cette nouvelle, cette jeune poésie des années 70 surtout, on pourra que se rendre compte que c'est une lecture étroite qui a vite fait de taxer cette et la qualifier de blasphématoire, voire d'hérétique. Voilà une première partie qu'on va illustrer par la lecture de quelques poèmes choisis qui vont illustrer un peu donc mon propos. Ah, vous m'entendez? Vous m'entendez? Ah oui. Merci. Donc on va vous proposer quelques poèmes. Un poème de Jean El-Mourouf Amrouche, Le combat algérien. Assia Djebbar, L'exilé. Mohamed Dib, Sur la terre errante. Anna Greki, Je ne sais plus aimer qu'avec la rage au cœur. Peut-être faut-il développer un point que j'ai abordé, mais je ne suis pas approfondi. Dans cette poésie, poésie militante, il n'y avait pas que des Algériens de souche arabe ou berbère. Il y avait aussi des Européens et des Européennes qui ont pris fait et cause donc pour le droit à l'autodétermination au peuple algérien et qui l'ont exprimé à travers des œuvres. Alors, Anna Greki, en poésie, elle a même été condamnée à de longues années de prison. Myriam Penn, qui était d'origine juive aussi, qui avait donc rejoint ce mouvement à la fois politique et littéraire. Et d'autres figures de cette littérature. Et alors, Jean El-Mourouf Amrouche, Le combat algérien, un texte qui date de 1958. J'ai déjà lu quelques extraits tout à l'heure. À l'homme le plus pauvre, à celui qui va demi-nu sous le soleil, dans le vent, la pluie ou la neige, à celui qui depuis sa naissance n'a jamais eu le ventre plein, on ne peut cependant ôter ni son nom, ni la chanson de sa langue natale, ni ses souvenirs, ni ses rêves. On ne peut l'arracher à sa patrie, ni lui arracher sa patrie. Pauvre, affamé, nu, il est riche malgré tout de son nom, d'une patrie terrestre, son domaine, et d'un trésor de fables et d'images que la langue des aïeux porte en son flux comme un fleuve porte la vie. On ne peut cependant ôter ni son nom, ni la chanson de sa langue natale, ni ses souvenirs, ni ses rêves. On ne peut l'arracher à sa patrie, ni lui arracher sa patrie. Nous voulons habiter notre nom, vivre ou mourir sur notre terre, mère. Nous voulons la patrie, la langue de nos pères, la mélodie de nos songes et de nos chants, sur nos berceaux et sur nos tombes. Nous ne voulons plus errer en exil, dans le présent, sans mémoire et sans avenir. Jean El-Mourouf Amrouche. Assia Djebbar, romancière et poétesse dans la première partie de sa carrière littéraire, elle a été très récemment membre de l'Académie française. C'était d'ailleurs l'une des rares femmes à faire partie de l'Académie française. L'exilé. Et Cicéron en latin, comme le berbère Saint Augustin. J'ai connu dans sa langue Socrate, et de même les discours d'Isocrate. J'ai aimé le français troubadour d'Éléonore et de sa cour. Même quand je rêve d'Arabie, la voix de Rimbaud me poursuit. Mais dans l'abîme de ma mémoire, berceuse, légende ou désespoir, s'est perdu le chant de ma langue comme un songe d'été sous les mangues. Des fils ont mis le rébus, horde de zèbres et de zébus, les mots anciens de mes ancêtres en arabesque sont leurs lettres. Sans voix où palpite mon sang, à quoi bon faire le chien savant avec des autres les conquêtes? Je n'ai jamais ri à leur fête. Au zénith de mon exil, sous un soleil hiéroglyphe, ardent comme le corail du Rif, brûlent nos poèmes de l'an 1000. Je sais Cicéron en latin, comme le berbère Saint Augustin. Désormais, notre trésor mandarin, ce sont les cris des crèves fins, la beauté partout souveraine, ses racines seules incendiaires. Mohamed Dib sur la terre errante. Quand la nuit se brise, je porte ma tiédeur sur les monts acérés et me dévais à la vue du matin comme celle qui s'est levée pour honorer la première eau. Étrange est mon pays où tant de souffles se libèrent, les oliviers s'agitent alentour et moi je chante. Et moi je chante, terre brûlée et noire, mère fraternelle, ton enfant ne restera pas seul avec le temps qui griffe le cœur. Entends ma voix qui file dans les arbres et fait mugir les bœufs. Ce matin d'été est arrivé, plus bas que le silence. Je me sens comme enceinte, mère fraternelle. Les femmes dans leur hutte attendent mon cri. Pourquoi, me dit-on, pourquoi vas-tu visiter d'autres seuils comme une épouse répudiée? Pourquoi erres-tu avec ton cri, femme, quand les souffles de l'aube commencent à circuler sur les collines? Moi qui parle Algérie, peut-être ne suis-je que la plus banale de tes femmes, mais ma voix ne s'arrêtera pas de héler plaines et montagnes. Je descends de l'Aurès, ouvrez vos portes, épouse fraternelle, donnez-moi de l'eau fraîche, du miel et du pain d'orge. Je suis venu vous apporter le bonheur. À vous et vos enfants, que vos petits nouveau-nés grandissent, que votre blé pousse, que votre pain lève aussi, et que rien ne vous fasse défaut, le bonheur soit avec vous. Anna Greki. Je ne sais plus aimer qu'avec la rage au cœur. C'est ma manière d'avoir du cœur à le vendre. C'est ma manière d'avoir raison des douleurs. C'est ma manière de faire flamber des cendres à force de coups de cœur, à force de rage. La seule façon loyale qui me ménage une route réfléchie au bord du naufrage, avec son pesant d'or, de joie et de détresse, ces lèvres de ta bouche ma double richesse, afin de qu'à la fleur de peau, à l'abordage, ma science se déroule comme des cordages judicieux où l'acier brûle ces méduses secrètes que j'ai draguées au fin fond du large, là où le ciel aigu coupe au rasoir la terre, là où les hommes nus n'ont plus besoin d'excuses pour rire déployés sous un ciel torsionnaire. Ils m'ont dit des paroles à rentrer sous terre, mais je n'enterrai rien, car il y a mieux à faire que de fermer les yeux quand on ouvre son ventre. Je ne sais plus aimer qu'avec la rage au cœur, avec la rage au corps, aimer comme on se bat. Je suis impitoyable comme un cerveau neuf qui sait se satisfaire de ses certitudes. Dans la main que je prends, je ne vois que la main. Dans la poignée ne vaut pas plus cher que la mienne. C'est bien suffisant pour que j'en aie gratitude. De quel droit exiger, par exemple, du jasmin qu'il soit plus que parfum, étoile plus que fleur? De quel droit exiger que le corps qui m'étreint plante en moi sa douceur à jamais, et que je te sois cher parce que je t'aimais? Plus souvent qu'à mon tour, parce que je suis jeune, je jette l'encre dans ma mémoire et j'ai peur quand de mes amis l'ombre me descend au cœur. Quand de mes amis absents, je vois le visage qui s'ouvre à la place de mes yeux. Je suis jeune, ce qui n'est pas une excuse, mais un devoir exigeant, un devoir poignant à ne pas croire qu'il fasse si doux ce soir au bord de la plage, prise au défaut de ton épaule, à ne pas croire, dressé comme un roseau, dans ma langue les cris de mes habits coupent la quiétude meurtrie pour toujours, dans ma langue et dans tous les replis de la nuit luisante. Je ne sais plus aimer qu'avec cette plaie au cœur, qu'avec cette plaie dans ma mémoire rassemblée comme un filet, grenade désamorcée, la nuit lourde roule sous ses lauriers rois où la mer fermente avec des odeurs de goudron chaud dans la houle. Je pense aux amis morts sans qu'on les ait aimés, eux que l'on a jugés avant de les entendre. Je pense aux amis qui furent assassinés à cause de l'amour qu'ils avaient prodigué. Je ne sais plus aimer qu'avec la rage au cœur, à la saignée des bras, les oiseaux viennent boire. Puis ce poème de Bachir Hajali intitulé « Serment ». Je jure sur la raison de ma fille attachée, hurlage des avions. Je jure par la patience de ma mère dans l'attente de son enfant perdu dans l'exode. Je jure sur l'intelligence et la bonté d'Ali Boumendjel et le front large de Maurice Audin. Mes frères, mes espoirs brisés en plein élan, je jure sur les rêves généreux de Ben Mehdi et d'Inel. Je jure sur le silence de mes villages surpris, ensevelis à l'aube, sans larmes, sans prières. Je jure sur les horizons élargis de mes rivages à mesure que la plaie s'approfondit, hérissée de lames. Je jure sur la sagesse des moudjahidines, maîtres de la nuit. Je jure sur la certitude du jour happé par la nuit, transfiguré par l'aurore. Je jure sur les vagues déchaînées de mes tourments. Je jure sur la colère qui embellit nos femmes, je jure sur l'amitié vécue des amours différés, je jure sur la haine et la foi qui entretiennent la flamme, que nous n'avons pas de haine contre le peuple français. Voilà donc quelques poèmes qui illustrent un peu cette poésie donc, qui est née à partir des années 40 et jusqu'à 1962. Et elle n'était pas connue dans sa totalité. Dans les années 60, on va découvrir ces textes grâce à cette anthologie Espoir et Parole qui a paru donc, au lendemain de l'indépendance. Donc j'ai parlé rapidement des années 70 qui ont vu l'émergence d'une nouvelle génération de jeunes poètes surtout, une poésie rebelle, incisive, etc., qui ne va pas, à qui on ne va pas faciliter l'existence, surtout en matière d'édition. Et les années 90, c'est la décennie noire ou rouge, c'est selon, qui va voir l'assassinat, comme je l'ai dit, de nombreux intellectuels, écrivains, poètes, sans parler du peuple, hein, parce qu'il n'y avait pas que les poètes qu'on assassinait, on assassinait aussi les simples citoyens, les femmes aussi ont payé un lourd tribut au terrorisme intégriste dans les années 90. Et c'était un peu curieux et à la fois pathétique de se retrouver dans les années 90 en ayant en tête des poèmes écrits dans les années 50. C'est-à-dire que de tragédie en tragédie, le peuple algérien a payé un lourd tribut à la colonisation, soit aux appétits de pouvoir et aux luttes de pouvoir. Alors, on a voulu, dans les années 80, rendre marginalisé d'une façon vraiment considérable la langue française. On a, dans l'environnement, on a débaptisé les rues et on a donné de nouveaux noms, c'est ce qui est tout à fait légitime, puisque on a remis parfois en place les noms qui existaient avant la conquête française. Mais en même temps, dans cette opération, on avait pour objectif de réduire la place et l'existence de la langue française. Ah oui. Je ne sais pas où il est le... Oui, ça va. M'excuse parce que tout à l'heure, parlait-il, il y a eu un hiatus. Donc, dans les années 80, on va déclarer la généralisation de la langue arabe et donc on va donner une échéance pour le non-recours à la langue française. Mais la réalité est plus forte que l'idéologie, plus forte que les discours. Au contraire, à partir des années 90, on va assister à l'essor d'une littérature algérienne de langue française encore plus nombreuse, plus diversifiée, où on va assister à l'émergence de nombreuses romancières, d'écrivaines, de poétesses, etc. Et petit à petit, l'existence du français fait partie du décor et de la réalité algérienne. Alors, je pense que on pourra ouvrir un débat. Vous m'excuserez, ça a été un peu rapide. Bon, sinon, ça aurait demandé une journée entière. Donc, toute question possible est attendue. Si vous voulez des précisions, s'il y a des choses... En principe, juste une petite parenthèse, vous pourrez retrouver l'essentiel de cette synthèse dans ce livre, cette anthologie de la poésie algérienne, Quand la nuit se brise, aux éditions Point. Si vous retrouvez certains textes, vous les retrouverez dans cette anthologie. Elle coûte pas cher, c'est en poche, c'est ce qui fait son utilité aussi. Ah oui, qu'est-ce qu'ils ont? Ah, je vais pouvoir. Alors, disons, il y avait deux courants. Au début, c'est les écrivains eux-mêmes qui se sont posés la question sur la pertinence d'une littérature algérienne de langue française. Mais comme j'ai essayé d'expliquer à travers mon exposé, c'est que l'existence de cette littérature, elle a accompagné une revendication identitaire. C'est un peu paradoxal, hein? C'est-à-dire revendiquer une identité, une nationalité, parce que les Algériens étaient désignés jusqu'à une certaine époque comme étant français. Musulmans ou français de souche musulmane. Mais c'était un statut tout à fait administratif. C'est-à-dire que dans la réalité, les Algériens n'avaient pas les droits, n'étaient pas à égalité avec la population européenne. Et donc, c'est en fait à partir de cette... De cette injustice ou de cette situation anormale, que la revendication identitaire a commencé à s'affirmer à partir des années 1920. Parce que 1920, on commençait les premiers intellectuels d'origine algérienne ont commencé à fréquenter l'école, enfin un nombre très restreint, puisque à l'indépendance de l'Algérie, 80% à 90% des Algériens étaient analphabètes. Donc il y avait une minorité qui maîtrisait la langue qui maîtrisait la langue française et une autre minorité qui maîtrisait l'arabe littéraire, dit littéraire. Hein? Voilà. Donc, ça a été. Alors, il y a eu des points de vue différents. Dans le livre, je restitue les positions des écrivains. Kate Biesine, à trouver cette formule de conciliation, hein, ou de qui la langue française est notre tribut de guerre. Mais c'est une métaphore, c'est pas. Donc, elle est à nous. Elle est à nous. Nous avons le droit de l'utiliser, en quelque sorte, de fructifier ce magot, hein, pour parler un peu prosaïquement. Alors, il y a eu l'attitude de Melk Haddad, qui était quelqu'un donc, qui avait beaucoup publié, qui était très apprécié ici en France, et lui a décidé d'arrêter d'écrire. Il est devenu un administrateur culturel, etc. Hein? D'accord. Il marche mieux. Ça va, vous?
On n'entend pas, là.
Vous m'entendez? Oui. Voilà. Voilà. Ouais, on s'oublie en parlant. Donc, il y a eu deux ou trois courants parmi les écrivains. C'est-à-dire, il y a aussi la réalité historique. C'est que pour écrire en arabe, il aurait fallu avoir une formation. Cette formation était impossible, puisque l'une des mesures qui avait été prise après la conquête, c'était l'interdiction de la langue arabe. Petit à petit, au fil du... Enfin, on a fait des concessions, mais l'arabe qui était enseigné, c'était dans des écoles coraniques. Il fallait aller en Orient ou en Tunisie, qui était plus développé, plus fourni, pour apprendre la langue, ou en Libye aussi peut-être, hein, et donc pour apprendre autre chose que le discours religieux. Et il y a eu quelqu'un comme Mouloud Mamri qui a dit, moi je peux dire que le français m'exprime plus qu'il ne me trahit. Ce que je veux exprimer, j'arrive à l'exprimer de façon tout à fait à la fois cohérente et satisfaisante pour moi. Et on ne peut pas arrêter un processus, puisque il y a eu des réformes en 58, à partir de 58, quand après un certain nombre d'événements politiques qui ont marqué l'Algérie, il y a eu la volonté de lancer quelques réformes à partir de 58, sous la présidence du général de Gaulle, qui avait déjà promis en 1947, il avait fait un grand discours à Constantine. Constantine, c'est une ville de l'Est. Entre parenthèses, Jean Amrouche était très proche du général de Gaulle. Donc, le général de Gaulle lui avait confié la mission d'organiser des contacts pour les négociations autour de la question algérienne, comme on disait. Et donc, à partir de cette réalité historique, c'est-à-dire l'analphabétisme, et puis de l'infrastructure héritée, les imprimeries fonctionnaient, c'était l'alphabet latin, les programmes d'enseignement dans le primaire et le secondaire se faisaient en français. Bien sûr, il y avait des aménagements, il y avait quelques heures dans certaines villes d'Algérie, pas dans toutes les villes, où on pouvait recevoir un petit enseignement en langue arabe. Donc, et puis le divorce entre l'Algérie et la France n'a pas été dans la réalité, les liens sont plus complexes, plus subtils entre la France et l'Algérie. Donc, on a continué à travailler avec le français. C'est plus tard, dans les années 70, qu'on va... En fait, c'était pas... C'était, la question de la langue, c'était moins une question, une question idéologique. À partir... parce que l'arabisation va avancer, elle va former de nouvelles générations qui ont étudié aussi le français. Le français a continué à être enseigné en deuxième année du primaire. Deuxième année du primaire, dans les années 60-70. Ensuite, on a assisté à l'arrivée d'une nouvelle génération qui avait suivi un enseignement uniquement en arabe. Et donc, la question va se politiser, parce que les structures économiques, administratives, etc., continuaient à fonctionner en C. Et donc, cette nouvelle génération ne va pas arriver à s'intégrer sur le plan du travail. Et donc, elle va petit à petit développer des revendications politiques qui généralement se nourrissent de l'idéologie panarabiste. Et en face, il va y avoir aussi ce qu'on va appeler péjorativement le parti de la France. Et donc l'histoire de l'Algérie va être ponctuée par des controverses, etc., une violence verbale qui va petit à petit cumuler en violence physique et meurtrière qu'on a connue en 90. Parce que le débat, la controverse sur la langue, intellectuellement, avait atteint déjà un degré de violence et d'agressivité, enfin qui était loin de nous faire penser qu'on allait tout d'un coup se retrouver à s'entretuer. Mais c'était déjà alarmant, ne serait-ce qu'au niveau des débats, des controverses. Donc voilà. Ah oui. La culture est quand même conditionnée par les événements historiques qui l'entourent. Il faut dire que l'Algérie avait vécu pendant plusieurs décennies sous le régime du parti unique. Et en 1988, il y a eu une sorte de printemps algérien, un printemps qui a précédé de nombreuses années ce qui va se passer ailleurs. Et donc, officiellement, l'Algérie va devenir un pays régi par le pluralisme politique. Et donc, dans cette conquête du pluralisme politique, il y a la culture. Donc, les polémiques vont continuer, mais les gens... la mauvaise conscience qu'avaient les écrivains, parce que, comme l'a dit quelqu'un, il a posé cette question, il a dit comment je vais écrire dans une langue que ma mère ne comprendra pas, à quoi bon ? Enfin, c'est plutôt une métaphore, mais c'est une réalité aussi. Mais il y a eu aussi, parallèlement, la langue berbère qui a été aussi négligée. et aussi l'arabe populaire, parce qu'il y a eu des linguistes algériens qui ont étudié les expériences à travers le monde. Et il était possible, en faisant un certain nombre de réformes sur le plan de la syntaxe, de la grammaire, etc., on pouvait utiliser l'arabe populaire et du jour au lendemain, on va d'une population qui était, puisque les gens parlent dans la vie de tous les jours, c'est l'arabe populaire qui était le plus usité. Et donc, ça aurait eu pour résultat, du jour au lendemain, de faire reculer l'analphabétisme, à condition de prendre un certain nombre de mesures. Pardon, le temps est limité. Donc, cette nouvelle littérature, elle a commencé dans les années 80, avec un roman au titre évocateur, Le fleuve détourné, de Rachid Mimouni. C'est-à-dire, comme quoi c'était le récit d'une parole sur des promesses qui n'ont pas été tenues, c'est-à-dire l'indépendance de l'Algérie n'a pas donné tout ce dont on attendait. Et cela, c'était du fait du pouvoir.